Quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1983. Au programme, Yannick Noah, couronné à Roland-Garros, un tueur fou dans la nature, le scandale incroyable des avions renifleurs, et pour terminer, une voiture iconique des années 80, la R25.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
En 1983, aux internationaux de tennis de Roland-Garros, Yannick Noah, 23 ans, devient le chouchou du public français. Rendez-vous compte, il a battu Ivan Lendl. Et à ce rythme-là, allez savoir s'il ne va pas remporter le tournoi. Son assurance, en tout cas, est bluffante.
Qui vous préféreriez rencontrer de tous ceux qui restent en lice?
Vous savez, en tennis, on joue contre l'adversaire, mais c'est aussi une lutte contre soi-même. Et je pense que, à l'heure actuelle, je suis en bonne forme, que je joue bien et j'ai peur de personne. Quand je regarde tous les joueurs que j'aurai à rencontrer, si je passe, je me dis que je crains pas grand monde. Et en fait, ceux que j'aimerais jouer, ce sont ceux qui perdront en quart de finale. Mais bon, c'est pas un problème. Une fois qu'on arrive en finale, on a une chance de gagner le tournoi, quoi qu'il arrive. Et la motivation sera importante, j'aurai le public.
Le 5 juin 1983, devant les 15 000 spectateurs du cours central et des millions de téléspectateurs, voici Noah en finale du tournoi de Roland-Garros, face au tenant du titre, Mats Wilander.
Nous sommes dans le tie-break. Yannick Noah mène 2-7-0. 6-3 dans le tie-break de la troisième manche. Ouais. Noah au service.
Va-t-il chercher l'ace? Oui, il sert au centre. Il monte au filet.
Fight, il a gagné! Il a gagné! Au quel moment? Yannick qui est à genoux au centre du court. Il a 23 ans, Yannick Noah. Il a eu 23 ans, Yannick Noah. Il embrasse son père Zachary. Son père Zachary qui a été footballeur professionnel à Sedan, qui habite au Cameroun et qui est venu, vous l'imaginez, pour vivre ce moment. Quel moment exceptionnel! 2h24, 6-2, 7-5, 7-6, 7-3 dans le tie-break pour Yannick Noah. Embrassé au centre du court sur la terre battue de Roland-Garros. Yannick qui maintenant va venir voir certainement Patrice Agelauer, son entraîneur. Bien sûr, c'est un très grand moment. Cela fait 11 ans que Patrice Agelauer et Yannick Noah collaborent. Patrice Agelauer a rencontré pour la première fois Yannick Noah à Nice. C'était en 1972. Yannick Noah avait été repéré par Arthur Hache au Cameroun. Il est venu, Patrice, au lycée Sport-Études de Nice et il ne pensait certainement pas, 11 ans plus tard, rejoindre les plus grands joueurs et gagner ici un tournoi du Grand Chelem.
Un Français n'avait pas remporté Roland-Garros depuis 1946. Et du coup, Yannick Noah devient une vedette.
C'était un match dur. J'ai rêvé toute la nuit de cette dernière balle. Et ça a été une nuit très longue et je suis arrivé sur le court bien tendu, concentré et j'ai fait des deux premiers sets pratiquement quasiment parfaits. Et au troisième set, j'ai eu un petit passage à vide physique. Mais enfin, j'ai réussi à passer outre cette fatigue et je veux dire, ça fait du bien. Je veux dire, ça vaut tous les sacrifices du monde. Je veux dire, c'est un moment tellement intense pour moi et pour plein de gens et je pense que j'oublierai jamais son nom.
Pour l'entraîneur de Noah, Patrice Agelauer, cette victoire en appelle beaucoup d'autres.
Pour un Français, gagner à Roland-Garros, vous savez que c'est encore probablement plus dur que pour un étranger parce qu'on veut tellement bien faire qu'on a tendance à se contracter. Donc il faut être très très fort. Et je crois que Yannick, en ayant perdu qu'un set, a justement montré là des possibilités étonnantes. Et il a maintenant un jeu d'attaque qui est vraiment très très efficace. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne joue pas aussi bien qu'il le fait sur terre battue, sur herbe. Et maintenant, il faut qu'il arrive à se dire, bon, un tournoi du Grand Chelem, c'est bien, mais pourquoi pas Wimbledon, pourquoi pas Flushing Meadows. Je crois qu'il va probablement commencer à y penser très très sérieusement et en tout cas, moi, je vais le travailler au corps.
Mais malheureusement, il n'y aura pas de suite. Noah digère mal son sacre parisien, trop de pression, il n'y arrive plus. Un vrai passage à vide, il n'a plus du tout la tête au tennis. Et le 1er décembre 1983, il convoque la presse pour annoncer qu'il quitte Paris pour New York.
Je vais aller habiter un peu là-bas, voir ce que c'est, changer un peu d'air. Je pense que ça me fera du bien, ça fera du bien pour plein de raisons. C'est une ville où je me sens bien parce que c'est une ville où à la fois il y a beaucoup de monde et où on se sent libre. Et d'un autre côté, ici, il y a beaucoup de monde et je me sens complètement pas libre. Et j'appartiens à personne et j'aimerais bien appartenir à moi-même et faire un peu ce que je veux, quand je veux et pas être jugé ou tout de suite épié au moindre fait et geste. Je veux dire, c'est ça qui me pèse un peu. C'est un peu trop pour moi. Si je me sens bien là-bas, je resterai le plus longtemps possible. Et puis s'il y a des problèmes, je reviendrai ou j'irai ailleurs.
Il part pour changer d'air. Tu pars ? Il part payer moins d'impôts, voilà ce que pensent les Français. Et une partie d'ailleurs des journalistes aussi. Au point qu'une semaine plus tard, Noah doit faire une mise au point publique. Il ne part pas pour les impôts. En vérité, il est au fond du trou.
Quand, hier soir, tu vois, à 5h du mat, parce que je marche toute la nuit, je dors pas. Je me retrouve sur un pont de l'Allemagne, tu vois, regarder l'eau, je me dis, je plonge pas, je me dis, il y a un problème, tu vois. Je me dis, il y a un problème, quelque part. Et qu'on parle surtout pas de fric, qu'on parle pas d'impôts, qu'on parle pas de conneries. Surtout pas, parce que ça me tue, ça. Ça me tue vraiment. Dans ces trucs-là, je suis seul, tu vois. Je suis tout seul. Alors, seul pour seul, bon, ben, je m'en vais. Ciao, les mecs, je vous aime beaucoup. Je vous aime tous, tu vois, mais je me casse, tu vois, parce que moi, je ne vais pas crever pour vous, tu vois. Je ne vais pas crever pour les gens.
Bien des années plus tard, on connaîtra les dessous de cette dépression. Car en vérité, à l'automne 1983, Noah est amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vue. Whitney, une Américaine. Ils ne se sont parlé que par téléphone, mais il la trouve réconfortante. Il veut tout simplement la rejoindre. Elle seule pourra le soigner. Et en attendant, il la couvre de cadeaux, des bijoux, des voitures. Il imagine qu'elle est la plus belle femme du monde. Mais quand enfin il la rencontre, il tombe de haut. D'abord, elle prétendait être mannequin. Elle est standardiste et pèse 150 kilos. Et surtout, c'est un escroc professionnel. Un autre joueur de tennis, Vitas Gerulaitis, s'est déjà fait avoir. On peut être champion de tennis et d'une incroyable naïveté. C'était Survivor avec son célèbre titre Eye of Tiger, sorti en 1983.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
Le 11 octobre 1983, à Pessac, en Gironde, un chirurgien, le docteur Aran, est retrouvé ligoté et bâillonné dans sa baignoire. Il a été étranglé avec un câble électrique. Mais sa femme a disparu. Et les médecins, elles aussi, anesthésistes. On la retrouve 2 semaines plus tard dans la Nièvre, à 5 heures de route de la Gironde. Elle a été abattue d'une balle de 7,65 à bout touchant. Pourquoi ? Qui a fait ça ?
Pendant une bonne partie de la journée, une équipe de policiers du SRPJ de Bordeaux et des deux gendarmes a ratissé le chemin de Prémerie, où vendredi dernier, on avait retrouvé le corps de Madame Aran. Avec un détecteur de métaux, les policiers ont vainement cherché une douille de 7,65, celle de la balle qu'on a retrouvée logée dans la portière de la BMW de Madame Aran. Aucune trace de douille, ni du revolver. Autre enquête, le porte-à-porte chez les témoins. Plusieurs personnes ayant affirmé avoir vu dans le centre de Nevers et sur la route d'Auxerre un homme seul, brun, portant un blouson de cuir au volant de la BMW du couple de Pessac, les policiers sont venus leur présenter le portrait robot, peut-être même la photo, d'un suspect. À propos de ces investigations, il est impossible de savoir si elles ont permis d'aboutir. Les hommes du commissaire Benet sont restés muets. Mais tout laisse à penser que grâce aux nombreux témoignages récoltés ici à Nevers, les policiers tiennent maintenant une piste sérieuse. Nevers, Alexandre Lichamp, Europe 1.
La police judiciaire de Bordeaux recherche un homme aux cheveux courts, brun, avec une veste en cuir. Pour le reste, les flics sont dans le Schwartz.
Pour la première fois depuis le début de l'affaire de Pessac, il y a plus de 3 semaines, les enquêteurs se sont laissés aller à quelques confidences. Selon les déclarations du commissaire Bonnet du SRPJ de Bordeaux, c'est une affaire, je cite, « horriblement compliquée ». Avec un enchaînement des faits débiles, ce qui donne à penser aux enquêteurs qui sont en face d'amateurs ou de petits malfrats. Déboussolés, paniqués, dépassés par la mort du chirurgien de Pessac, ces derniers ont alors tué sa femme dans cette région de Nevers, passée au peigne fin ces derniers jours par les policiers bordelais. Si en effet ils commencent à cerner la personnalité des auteurs, ils ne semblent toujours pas connaître le déclic de cette affaire. Plus de 3 semaines après la nuit du drame, les policiers bordelais n'arrivent toujours pas en effet à répondre à la simple question « Pourquoi ?» Bordeaux, Bernard Abadie, Europe 1.
5 semaines après l'assassinat du couple de médecins, en novembre 1983, dans le bois de Boulogne, un policier à moto, le brigadier Claude Auchard, est abattu lors d'un simple contrôle d'identité. Joseph Franceschi, secrétaire d'État à la Sécurité publique, exprime sa colère au micro d'Europe 1.
Le policier faisait son travail tout simplement. Et il a poursuivi quelqu'un après l'avoir contrôlé et l'a emmené à la fourrière pour contrôle d'identité. La personne, le voyou, s'est échappé. Et d'après ce qu'on vient de me raconter à l'instant, après l'avoir bousculé, heurté dans le bois, délibérément, de sang-froid, il lui aurait tiré 3 balles de revolver dessus. C'est ignoble, c'est abominable. Bouleversé de voir que des hommes qui consacrent leur vie à la sécurité publique, à garantir la tranquillité des personnes et des biens, risquent comme ça leur vie à chaque instant à cause de voyous.
L'homme qui a abattu le motard serait Lionel Cardon, un petit truand qui vient de sortir de 6 années de prison pour braquage à main armée. Les policiers le soupçonnent d'être aussi le tueur du couple de médecins de Pessac. Mais Cardon est en cavale. Et un jour, il appelle l'agence France-Presse qui réalise une interview enregistrée qui n'a pas été diffusée à l'époque.
Je suis totalement étranger au déroulement dramatique qui s'en est écoulé.
C'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec l'affaire Aran?
Je n'ai rien à voir sur le déroulement dramatique qui s'est déroulé.
Mais vous me dites que vous avez été blessé. Vous avez été blessé hier soir?
J'ai été blessé hier soir, oui. Dans le fait de l'action que s'est passée cette nuit, si je tire instinctivement, je veux dire, je n'ai pas visé. Mais si j'avais pu, j'aurais désarmé ce policier ou je l'aurais blessé. Vous comprenez? Et ça s'est passé tellement rapidement que des deux côtés, je pense que le premier, j'ai tiré instinctivement et que lui aussi a tiré instinctivement.
Et vous êtes blessé où?
Je suis blessé au côté gauche. C'est une sale blessure.
2 jours plus tard, dans le journal Le Quotidien de Paris, la journaliste Annette Kahn dresse le portrait de Lionel Cardon. Et lui? Lui, ça ne lui plaît pas du tout. Et il comprend que ce sont les confidences d'un avocate qui ont nourri ce papier. Nicole Dreyfus, qui était partie civile contre lui lors de son dernier procès pour braquage. Alors Cardon fonce à son cabinet et il la prend en otage avec 2 de ses employés.
« Bon, maintenant, tu vas appeler l'autre greluche du quotidien de Paris, là. Qu'elle réplique, fils. Je vais m'expliquer avec elle. Mais elle voudra pas venir. Tu lui dis que t'as un scoop pour elle, sur Cardon. » Tu verras, elle viendra, c'est certain.
La journaliste promet de rappliquer le plus vite possible. Mais en attendant, l'avocate a un petit problème.
C'est-à-dire que
Monsieur Cardon, mon chien a besoin de... Vous comprenez, de sortir, quoi, de pisser.
Il veut pisser? Ok, je t'accompagne.
Et les voilà partis en promenade avec le kleps. Cardon, l'avocate et ses deux employés. Mais à leur retour, l'une des employées parvient à tromper la vigilance de Cardon et elle glisse à l'oreille d'une voisine.
Appelez la police. Je vous en supplie, c'est un fou. Il nous a pris en otage. Je vous en supplie, appelez la police.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
Mais malheureusement, la journaliste Annette Kahn du quotidien de Paris débarque au bureau de l'avocate avant que la police n'arrive.
Je sonne, Nicole Dreyfus m'ouvre, ce qui m'a paru surprenant sur le moment, parce qu'un avocat ouvre rarement la porte lui-même. J'entre, elle referme la porte, je vois Cardon derrière, enfin je vois un jeune homme rasé derrière la porte, avec une arme à la main, et Nicole Dreyfus me dit « je suis désolée, voilà la surprise ».
Et lui ?
Lui ne dit rien, il a un sourire un peu sardonique, il est... Bon, je comprends tout de suite que c'est Cardon. Mais j'ai pensé sur le moment, tiens, il a voulu faire une interview, et il m'a fait appeler, bon, bah, très bien, on va faire un papier, puisque je suis là, j'y suis, on fait un papier. Je pensais que c'était ça, puis qu'après, il partirait. Et en fait, j'ai très vite réalisé, quand il avait son arme à la main, il nous a fait entrer dans le bureau, il nous a fait asseoir chacune sur un siège, toutes les quatre, et il brandissait à la main, le quotidien de Paris, on parlait de lui, et je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Ce type-là veut régler un compte.
Les flics de police secours, alertés par la voisine, débarquent quelques instants après la journaliste.
Les policiers ont sonné à la porte, il a fait ouvrir la porte, moi j'étais devant lui, il me tenait sous la menace de son arme. Les policiers ont tiré les premiers, il y a eu des coups de feu, il y a eu une demi-douzaine de coups de feu qui sont partis dans mes jambes, au-dessus de moi, je n'ai pas compris, j'étais devant, au premier plan. Cardon a riposté ensuite. Après, il a fermé la porte et on a parlé.
Un policier est légèrement blessé, mais par miracle, personne d'autre n'est touché. Lionel Cardon tense la journaliste. En gros, ton article, c'est de la merde.
Il n'était pas très content d'un papier que j'avais fait concernant sa personnalité, qui voulait rétablir son image de marque, de façon différente. J'ai même pensé à un moment qu'il voulait régler des comptes avec moi. Je me suis vite aperçu que ce qu'il voulait, c'est parler. Alors il a parlé. Il a parlé de la détention, il a parlé de Pessac, il s'est justifié dans l'affaire de Pessac.
Qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de l'affaire de Pessac ?
Alors il m'a dit qu'ils étaient plusieurs, qu'il s'agissait bien de rapt, que quand ils ont effectivement appris que le docteur Arant s'était étouffé, ils ont pris la décision en collégialité d'exécuter Aline Arant, mais que c'est pas lui qui l'avait fait, qu'ils avaient jeté l'arme par la suite.
Tout le monde était d'accord pour la tuer.
C'est ce qu'il dit, tout le monde était d'accord pour la tuer.
La BRB, l'unité d'élite de la police, mène les négociations avec le preneur d'otage. En fin d'après-midi, Cardon libère la femme de ménage, la secrétaire et la journaliste. L'ennemi public numéro un est agité, il a un flingue braqué sur sa propre tempe. Il menace de se suicider.
Je suis resté seul avec Cardon et j'ai continué la discussion pendant un certain temps. On a même pris un café... Je lui représentais ce que pouvait être pour un homme de 26 ans d'attenter à ses jours, de choisir la mort, alors qu'il avait des choses à dire, il avait des êtres à aimer, et que la vie, quelle qu'elle soit, valait toujours d'être vécue comme un combat, et comme un combat qui pouvait comporter des promesses. Mais il n'a pas voulu se laisser convaincre.
Au bout de longues palabres, Cardon accepte que le commissaire Cancès et le procureur Davenas entrent pour discuter avec lui.
Cardon se tenait au fond de l'entrée, le revolver braqué toujours sur sa tempe, et la discussion s'est engagée avec les magistrats sur les garanties qui lui seraient offertes. Monsieur le procureur de la République est venu, il a participé aussi à cette discussion qui s'est longuement prolongée. Je puis vous dire qu'à la fin, il m'a remis son arme, après un très 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 long débat, en me disant « je le fais pas ».
L'avocate est héroïque et elle convainc Lionel Cardon de mettre fin à sa folle cavale. Il se rend à 19h35 et le lendemain matin, la journaliste Annette Kahn est l'invitée d'Yvan Levaille sur Europe 1.
Alors on a parlé, je ne sais pas s'il y a une leçon générale et définitive à en tirer, mais Annette Kahn, à votre avis, face à un assassin dans une prise d'otage, qu'est-ce qu'il faut faire, ou et surtout ne pas faire, à votre avis, maintenant?
Ne jamais lui montrer qu'on a peur. Établir un contact personnel avec lui. Lui parler sur le ton, il faut être un peu diplomate, je pense, ou un peu psychologue, bon, peut-être je suis les deux, ou peut-être pas. Établir avec lui un contact très personnel, très homme à femme, homme à homme, femme à femme. qui fait que oui, je vous comprends, oui, vous avez raison, mais quand même, il ne faut pas être trop complaisant. Il faut le laisser. Un garçon comme Cardon, il veut parler, il veut s'expliquer, il veut dire ce que c'est que la prison, pourquoi il est devenu ce qu'il est à 26 ans, bientôt. Comment il a été pourri par la prison. Bon, mais parlez, Lionel Cardon, parlez. Effectivement, vous avez raison, je traduirai votre pensée. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que vous avez fait. Il ne faut pas être trop complaisant. Il faut lui montrer qu'on n'a pas peur de lui.
Plus généralement, le micro, la caméra, entre les juges, les policiers et les psychopathes mégalomanes comme lui, qu'est-ce qu'on fait?
Je crois qu'on n'a pas le choix, d'abord, devant une arme. On ne peut pas refuser.
Oui, mais on montre des images à la télévision, on laisse parler l'assassin à la radio, qu'est-ce qu'on fait? Il téléphone à l'AFP, on diffuse ou pas? À votre avis, comme ça, la journaliste, qu'est-ce qu'elle dit?
C'est l'information, la presse c'est le troisième pouvoir, s'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Les informations générales, c'est aussi important que les informations politiques, que les informations économiques, que les informations du spectacle. S'il se passe quelque chose, s'il se passe un événement dans le domaine du fait divers, bien sûr, il faut le faire savoir, il faut le dire, ça fait partie de notre travail.
Trois ans plus tard, Lionel Cardon sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du policier Houchard. Et 8 mois plus tard, il sera condamné une seconde fois à perpétuité pour le double assassinat des époux Aron. C'était Culture Club avec son tube de 1983, Do You Really Want to Hurt Me?
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
En décembre 1983, juste avant Noël, le Canard Enchaîné sort une bombe. L'affaire des avions renifleurs. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, je vous préviens, vous allez tomber de l'arbre. Le Canard révèle que 7 ans plus tôt, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la société pétrolière nationale Elf ERAP a passé un contrat d'une centaine de millions de francs pour une invention, comment dire, improbable. Des avions dotés d'un nouveau procédé technologique qui serait capable de renifler des nappes de pétrole. Imaginez l'aubaine en pleine crise pétrolière. Ce procédé permettrait de faire des milliards d'économies en forage. Mais c'est une supercherie, c'est une arnaque géniale. Les ingénieurs d'Elf se sont fait rouler dans la farine.
Deux types de matériel étaient utilisés. D'abord le système Delta installé dans un avion évoluant à 5000 mètres d'altitude, capable selon les inventeurs de détecter des gisements de pétrole jusqu'à 6000 mètres sous terre et d'en tracer les contours grâce à un bip-bip sonore. En fait, ce détecteur Delta était essentiellement un bricolage, au demeurant génial, utilisant deux magnétoscopes avec lesquels les inventeurs enregistraient images et sons avant même que l'avion ne décolle. En vol, les observateurs de la société pétrolière ne faisaient donc qu'assister à la projection de cartes géologiques enregistrées à l'avance et savamment déguisées grâce à un ordinateur.
En décembre 1983, le scandale est à son paroxysme, d'autant que le Canard Enchaîné révèle que le gouvernement de Raymond Barre a tenté d'étouffer l'affaire.
Faut-il pleurer, faut-il en rire, rendrait ni l'un ni l'autre. Ce qui demeure stupéfiant, ce n'est pas tellement que des hauts personnages politiques de l'État se soient laissés bluffer par un procédé soi-disant révolutionnaire. Après tout, d'autres chefs d'État ou de gouvernement français se sont en toute bonne foi lancés en d'autres temps sur des opérations spectaculaires. Le Concorde, les abattoirs de la Villette ont coûté plus cher que les avions renifleurs. Mais au moins, là, les comptes étaient clairs. Le rapport de la Cour des comptes, et c'est bien normal, met l'accent sur les responsabilités, les erreurs commises pendant plus de 4 ans par les dirigeants du groupe Elf ERAP, messieurs Guillaume puis Chalon. Et c'est là où l'histoire est rocambolesque. Comment des techniciens, des polytechniciens, des ingénieurs, des géologues ont-ils pu se laisser abuser par les avions renifleurs alors qu'ils auraient dû, a priori, se méfier d'une invention miracle? Une fois cautionné par M. Pinet, approuvé par le patron du groupe Elfera, Pierre Guillouma, l'opération n'a pu être freinée en dépit des échecs et des déboires de l'inventeur. Tout s'est passé comme si les chercheurs, les hommes de l'état-major d'Elfera, s'intoxiquaient eux-mêmes, intoxiquaient le chef de l'État, puis le chef du gouvernement.
À l'époque, Albin Chalandon est le président de la compagnie Elfera. Et il affirme qu'il a eu des doutes, mais que le scandale n'est pas de sa faute.
Finalement, ce système qui a conduit à faire un certain nombre de forages en France ou à l'étranger n'a jamais trouvé de pétrole. C'est-à-dire que chaque fois qu'il devait en trouver, il y avait toujours une explication technique valable qui permettait d'expliquer pourquoi on ne l'avait pas trouvé.
À peu près un an après que vous soyez arrivé, vous avez quand même signé un contrat pour ce procédé qui portait quand même sur une somme de 1 milliard. Alors, pourquoi vous l'avez ? Pourquoi avez-vous signé ce contrat à ce moment-là, alors que, vous le disiez vous-même, il n'y avait toujours pas de pétrole ?
Eh bien, parce que j'ai signé ce contrat sur instruction gouvernementale. C'est-à-dire la position que j'ai prise était très simple, en disant, comme simple président de l'ERAP, qui est une émanation de l'État, je ne veux pas prendre la responsabilité seule de signer ce contrat, mais comme l'ERAP, c'est l'État, si le gouvernement me dit de le faire, je le fais. Et j'ai reçu l'instruction de le faire et je l'ai fait.
C'était l'instruction du Premier ministre.
C'était l'instruction du Premier ministre.
Une commission d'enquête est ouverte. Il s'agit de savoir quelles sont les responsabilités du Premier ministre Raymond Barre et du président Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est Max Gallo, porte-parole du gouvernement socialiste qui a succédé à Raymond Barre, qui est à la manœuvre.
Dans cette affaire, le gouvernement pense qu'il y a surtout la preuve d'une extraordinaire légèreté, une invention qui aurait à peine séduit Tintin, je dirais, dans une bande dessinée, a fait sortir de France 50 milliards d'anciens. Et je comprends que les responsables politiques aient tenu à masquer cette extraordinaire légèreté et, je dirais, ce formidable ridicule.
Un an plus tard, une commission d'enquête parlementaire créée pour l'occasion rend son rapport. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing n'est pas inquiété. Raymond Barre est critiqué pour avoir tenté d'étouffer l'affaire. Mais il reste un gros mystère. Où sont passés les 500 millions de francs du contrat? On ne le saura jamais.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
Voici, mesdames et messieurs, l'un des tubes de l'automne 1983. Ne cherchez pas ce clip sur YouTube. Il n'a été diffusé que pour les salariés de Renault au moment où la chaîne, en retard sur Peugeot, a dégainé sa R25.
L'enjeu pour la R25, c'est le créneau du haut de gamme. 16% du marché européen, soit 1 600 000 véhicules l'an dernier. Actuellement, dans cette catégorie, 5% seulement des véhicules sont des Renault, R20 et R30. L'objectif de la régie avec la R25 est d'atteindre 9% de ce marché fin 84. Le pari est ambitieux, d'autant que les constructeurs français n'ont jamais vraiment réussi avec les grandes routières. L'arme de la régie, c'est la R25, qui sera proposée avec 5 moteurs, du 2 litres essence au V6 à injection. Deux sortes de transmissions, mécanique à 5 rapports ou automatique à 3 rapports. Trois sortes d'équipements, selon les modèles, avec ordinateur de bord et synthèse de la parole. Les prix sont encore inconnus, mais on peut raisonnablement avancer une fourchette de 80 000 à 120 000 francs.
La R25 ambitionne même de grignoter des parts de marché aux luxueuses berlines allemandes de BMW et de Mercedes. Et du coup, c'est une véritable curiosité. Un jour, Bruno Mazur, qui à l'époque est journaliste à TF1, vient à l'Élysée à la sortie d'un conseil des ministres. Et dans la cour, il la voit. Il ne voit qu'elle. Et dans son papier, il ne parle que d'elle. Pas un mot sur l'ordre du jour du conseil des ministres.
La surprise est venue dans la cour de l'Élysée.
avec la présence, non loin de la célèbre Renault Rouge de Jacques Delors, d'une R25 flambant neuve. La fierté de la régie provoquait, vous le voyez, la curiosité, voire la convoitise, je n'ose pas dire la jalousie de mes confrères, qui n'ont pas un salaire de ministre. En effet, l'heureux propriétaire était Laurent Fabius, propriétaire d'un jeu.
Vos impressions d'utilisateur?
Ah ben, je l'ai depuis ce matin, parce que la régie me l'a prêté, comme c'est la tradition. Ça a l'air d'une voiture formidable. Hein. Bon, il y a pas mal de chevaux sous le capot, et puis l'intérieur est très bien arrangé. Enfin, la régie dit que c'est une voiture de conquête. Je crois que ce sera une bonne voiture de conquête. Ça fait plaisir, ça montre que quand les constructeurs français s'y mettent, ils peuvent faire aussi bien, même mieux que les autres.
Je vous ai vu vous promener il n'y a pas si longtemps dans une deux chevaux dans Paris. Est-ce que vous allez acheter?
C'est la voiture de ma femme. Moi, j'ai toujours roulé sur Renault, et puis ma femme a une deux chevaux, alors je vais continuer avec la Renault.
Dans les deux chevaux ou dans les R25 en 1983, les Français se passionnent pour un nouveau groupe, Indochine, qui vient de signer son premier album, L'Aventurier. En mars 1983, Indochine est l'invité de l'émission Barbier de nuit sur Europe 1.
Alors je dois dire que la pochette est très bande dessinée. D'ailleurs, je crois que vous êtes très inspiré un petit peu, hein, par la BD.
Oui, beaucoup. Enfin, tous les titres sont tirés. On a fait ça sur des chansons qui ont rapport avec la BD.
Ouais. Mais vous dessinez avant de...
Non, on a lu les BD, surtout Nicolas, surtout il s'occupe des textes. Et ouais. On a fait ça sur une chanson sur Bob Moran.
Et alors vous, Dominique, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je fais des musiques, moi.
Vous êtes compositeur. Ouais,
oui. Il faut dire que ces musiques, ça inspire justement sur la bande dessinée, sur l'aventure, donc tout le concept de cet album.
Vous êtes combien dans le groupe? 4, hein?
On est 4, oui. Donc il y a Dominique qui fait toutes les musiques, il y a moi qui fais les textes, il y a Stéphane, mon frère, qui fait les synthétiseurs, les séquenceurs, il y a Dimitri au saxophone.
Voilà, donc moyenne d'âge,
vous êtes 20 ans, 23, 20 ans. Oui,
c'est désagréable tout ça, enfin, que vous faudra faire avec. Je vous propose tout de suite d'écouter un de ces morceaux et qui porte d'ailleurs le titre de cet album, ça s'appelle Aventurier.
L'aventurier du groupe Indochine en 1983. À la manœuvre, comme tous les jours, Guillaume Maury et Julien Pichenet. Le réalisateur de cet épisode s'appelle Boris Paczynski. La suite de notre exploration de l'année 1983 dans le 5e épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.